Bonjour. Alors, je vous propose juste de prier pour commencer. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ce temps qu'on peut passer ensemble ce matin. Je te remercie pour ta parole qui est vivante encore aujourd'hui. Je te prie qu'aujourd'hui, encore, elle puisse nous rafraîchir, que l'on puisse comprendre ce que tu as à nous dire et en retirer quelque chose pour nos vies. Amen. Alors voilà, donc nous continuons notre voyage dans les psaumes. Et aujourd'hui, alors comme Gaël l'a dit, nous allons parler du psaume 73, mais avant ça, j'aurais souhaité vous lire une petite histoire qui a été inventée par Max Lucado et qui nous parle un peu de notre tendance à toujours vouloir tout expliquer. Alors comme toutes les histoires, ça commence par « Il était une fois ». Il était une fois un vieil homme qui vivait dans un petit village. Bien que pauvre, il était envié par tous parce qu'il possédait un beau cheval blanc. Même le roi enviait ce trésor. On n'avait jamais vu un animal comme ce dernier, tant par sa splendeur, sa majesté, que par sa force. Certains offrirent des fortunes pour cette monture, mais le vieil homme refusa toujours. « Ce cheval n'est pas un cheval pour moi, » disait-il, « c'est une personne. Comment pourrait-on vendre une personne ? C'est un ami, pas une possession. Comment pourrait-on vendre un ami ?» L'homme était pauvre et la tentation était grande, mais jamais il ne vendit le cheval. Un matin, il ne trouva pas le cheval dans son écurie. Tout le village vint le voir. « Vieux fou !» se moquèrent-ils. « Nous t'avions dit qu'un jour quelqu'un volerait ton cheval. Nous t'avions prévenu que tu serais volé. Tu es si pauvre. Comment as-tu pu espérer pouvoir protéger un animal si coûteux ? Il eût été préférable de le vendre. Tu aurais pu en tirer le prix que tu voulais. » Aucune somme n'aurait été trop importante. Maintenant, le cheval est parti. Tu as été maudit. Le vieil homme répondit, « Ne parlez pas trop vite. Dites seulement que le cheval n'est pas dans l'écurie. C'est tout ce que l'on sait. Le reste n'est que jugement. Ai-je été maudit ou non ? Comment pouvez-vous savoir ? Comment pouvez-vous juger ?» Les gens protestèrent. « Ne nous prends pas pour des fous. Nous ne sommes peut-être pas philosophes, mais nous n'avons pas besoin de philosophie. » Le simple fait que ton cheval ne soit plus là constitue une malédiction. Le vieil homme parla de nouveau. Tout ce que je sais, c'est que l'écurie est vide et que mon cheval est parti. Je ne sais rien de plus. Est-ce une malédiction ou une bénédiction? Je ne peux pas dire. Nous ne voyons que des fragments des choses. Qui peut dire ce qui va arriver ensuite? Les gens du village rirent et pensèrent que le vieil homme était fou. Ils l'avaient toujours pensé, car s'il ne l'était pas, il aurait vendu le cheval et aurait vécu des revenus de cette vente. À la place de cela, il était un pauvre bûcheron, un vieil homme encore obligé de couper du bois du bois de chauffe et de le traîner en dehors du bois et de le vendre. Il vivait dans la misère et la pauvreté. Il avait désormais prouvé qu'il était vraiment fou. 15 jours plus tard, le cheval revint. Il n'avait pas été volé. Il s'était seulement enfui dans la forêt. Non seulement il revint, mais il ramena avec lui une douzaine de chevaux sauvages. Une fois encore, les gens s'assemblèrent autour du bûcheron et lui dirent « Vieil homme, tu avais raison, et nous avions tort. Ce que nous pensions être une malédiction était une bénédiction. Pardonne-nous. » L'homme répondit « Encore une fois, vous allez trop loin. Dites seulement que le cheval est revenu et qu'une douzaine de chevaux l'accompagnent, mais ne jugez pas. Comment pouvez-vous savoir s'il s'agit d'une bénédiction ou non ? Nous ne voyons qu'un fragment des choses. » Vous ne lisez qu'une page d'un livre et vous jugez ce dernier tout entier. Vous ne lisez qu'un mot d'une phrase. Comment pouvez-vous comprendre la phrase entière ? La vie est si vaste et pourtant vous jugez toute la vie, sur une page ou un mot. Vous n'avez qu'un fragment. Ne dites donc pas qu'il s'agit d'une bénédiction. Personne ne sait. Je suis content de ce que je sais. Je ne suis pas perturbé parce que je ne sais pas. Peut-être le vieil homme a-t-il raison, se dirent-ils. Ils n'en dirent pas beaucoup plus. Cependant, au fond d'eux-mêmes, ils étaient persuadés qu'il avait tort. Ils savaient qu'il s'agissait d'une bénédiction. 12 chevaux sauvages étaient revenus en plus. Avec un peu de travail, les animaux pourraient être domestiqués, entraînés et vendus pour beaucoup d'argent. Le vieil homme n'avait qu'un fils. Ce dernier commença à domestiquer les chevaux sauvages. Après quelques jours, il tomba d'un des chevaux et se cassa les deux jambes. Une fois encore, les villageois s'assemblèrent autour du vieil homme et émirent leur jugement. « Tu avais raison, » dirent-ils. Tu nous as prouvé que tu avais raison. Les 12 chevaux n'étaient pas une bénédiction. Ils étaient une malédiction. Ton fils unique s'est cassé les jambes. Et maintenant, dans ton grand âge, tu n'as personne pour t'aider. Tu es maintenant plus pauvre que jamais. » Le vieil homme parle encore. « Vous êtes vraiment obsédé par le jugement. N'allez pas si loin. Dites seulement que mon fils s'est cassé les jambes. Qui sait s'il s'agit d'une bénédiction ou d'une malédiction ? Personne ne sait. Nous ne connaissons que des fragments, des choses. La vie vient de cette façon, en fragments. » Il arriva encore quelques semaines plus tard, le pays s'engagea dans une guerre contre un pays voisin. Tous les jeunes hommes du village furent réquisitionnés, sauf le fils du vieil homme, parce qu'il était blessé. Une fois encore, les gens se rassemblèrent autour du vieil homme, pleurant et se lamentant parce que leur fils avait été pris et avait peu de chances d'en revenir. L'ennemi était fort et la guerre serait une sanglante défaite. Ils ne reverraient jamais leurs enfants. « Tu avais raison, vieil homme, » gémirent-ils. « Dieu sait que tu as raison. Tout cela le prouve. L'accident de ton fils était une bénédiction. Ses jambes sont peut-être rompues, mais au moins, il est avec toi. Nos fils, eux, sont partis pour toujours. » Le vieil homme répondit une fois de plus, « C'est vraiment impossible de discuter avec vous. Vous n'arrêtez pas de tirer des conclusions. Personne ne sait. Dites seulement, nos fils sont partis à la guerre et le tien non. Personne ne sait si c'est une bénédiction ou une malédiction. Personne n'est assez sage pour le savoir. Seul Dieu sait. » Face aux difficultés, aux épreuves, aux tourments, à la maladie, nous sommes souvent remplis de pourquoi. Pourquoi moi et pas lui? Pourquoi ici et maintenant? Pourquoi ces événements-là? Les villageois du récit que je vous ai lu ont été en lutte avec ces questions. Pourquoi le cheval a-t-il disparu? Pourquoi le fils s'est-il cassé les jambes? Pourquoi leurs enfants doivent-ils partir à la guerre? Asaph, l'auteur du psaume que nous allons parcourir ce matin, a lutté avec ces questions. Il a rencontré beaucoup de pourquoi. Et il va nous apporter quelques encouragements et quelques enseignements lorsque l'on fait face à ces pourquoi. Alors je vous propose de lire maintenant la première partie de ce psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. Car ils sont exempts de souffrance. Jusqu'à leur mort, ils ont santé et en bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi s'ornent-ils d'arrogance, comme on porte un collier, et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants, dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi, le peuple les suit-il, buvant à l'entrée leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il ? » Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais « Parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. Je trouvais cela bien trop injuste. Pourquoi les méchants vivent-ils une vie tranquille? Pourquoi réussissent-ils? Pourquoi accumulent-ils les richesses? Pourquoi sont-ils exempts de tristesse, de tourment, de peine? Asaph, confronté à ces questions, semble dépité. Il le dit lui-même. Il s'en est fallu de peu qu'il se joigne à eux. Il s'en est fallu de peu qu'il abandonne son Dieu. Qu'ils se tournent vers d'autres dieux qui, eux, rétribuent si bien. Pourquoi tout semble réussir aux arrogants, aux gens méchants? Je suis sûr que vous connaissez autour de vous des personnes à qui tout semble réussir alors qu'elles vivent sans foi ni loi, ou simplement qu'elles transgressent le système en utilisant les failles du système. Mais simplement au verset 3, il nous est dit « J'étais jaloux des arrogants » en voyant la tranquillité des gens méchants. Le mot traduit par tranquillité, c'est shalom. Nous avions longuement parlé la dernière fois. Les méchants semblent vivre cette plénitude de vie, une vie tranquille, comblée, rêvée par chacun. Asaph en vient à regretter d'avoir une vie juste. Il compare sa souffrance au bonheur des méchants. Il est tourmenté par cette injustice autour de lui. Les questions qu'il se pose sont à la fois académiques et personnelles. D'un point de vue académique, il s'interroge « Comment cela est-il possible que les méchants aient une si belle vie ?» Mais il est aussi touché personnellement. Il nous dit « Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. C'est difficile à vivre pour lui au quotidien. Il souffre réellement de cette injustice. Ce psaume nous pose donc le problème de l'injustice flagrante dans le monde. Ce problème qui existait au temps d'Asaph, qui a perduré dans l'histoire. Vous avez probablement déjà lu le récit de Job. Et puis plus tard, le prophète Jérémie aussi se pose cette question. En Jérémie 12, on peut lire « Tu es juste, éternel. Comment donc oserais-je contester avec toi ? Cependant, je voudrais discuter avec toi de la justice. Pourquoi les méchants réussissent-ils ? Pourquoi les traîtres vivent-ils si tranquilles ? Alors que faire face à ce problème de l'injustice ? Je vous propose de le découvrir dans la suite de ce psaume, à partir du verset 16. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine et soudain c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi ? Et ici-bas, que désirer, car je suis avec toi ? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sur-refuge et je raconterai ses œuvres. Asaph ne va pas complètement répondre à la question du pourquoi de l'injustice. Mais il nous dit quand même des choses intéressantes. Des choses importantes pour nous aujourd'hui. Il nous invite à changer de perspective. Vous connaissez certainement Joseph, dont la vie nous est racontée dans le livre de la Genèse. Il a été battu par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison. Il a vécu une vie plus que tourmentée. Cependant, à la fin de sa vie, il a dit ceci à ses frères. « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien. » En vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph a choisi à ce moment-là de voir sa vie avec une perspective nouvelle. Il a choisi de voir sa vie à la lumière de ce que Dieu a fait au travers de lui. Et Asaph va changer de perspective également concernant les méchants. Il va les voir au travers d'une perspective bien plus vaste, dans le temps, et en y incluant Dieu. Alors déjà, le premier point, c'est qu'il est intéressant de noter que sa réflexion, il l'a construit dans la relation avec Dieu. Il se met à réfléchir, mais c'est seulement lorsqu'il se rend au sanctuaire de Dieu qu'il trouve enfin la réponse qu'il attendait. Mais ce n'est pas l'un sans l'autre. Ce n'est pas une réflexion sans laisser place à la révélation divine, mais ce n'est pas non plus une attente de révélation sans réflexion. Ainsi donc, son tourment s'apaise et il nous partage le fruit de ses pensées. Le premier aspect qui ressort de sa réflexion, c'est le sort qui attend les méchants. Au verset 18, il est dit « Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Comme soudain, les voilà dévastés, ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve s'évanouissent au réveil, Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas. » La perspective limitée que le psalmiste avait dans la première partie est soudain agrandie. Le psalmiste voit désormais le sort qui les attend. Leur temps de prospérité sur terre s'évanouira comme les images d'un rêve. Leur réussite est éphémère, fragile. Le psaume 49, qui parle d'un sujet similaire, s'intitule de manière très imagée dans la Bible Summer. Le titre, c'est « Le linceul n'a pas de poche ». Oui, lorsque nous mourons, nous n'emportons pas ce que nous avons accumulé ici avec nous sur terre. Nos richesses terrestres resteront ici-bas. Mais au-delà de la ruine matérielle, il est également question de leur sort éternel. C'est la triste réalité de l'enfer qui les attend. Dieu jugera et certains seront sauvés, d'autres seront condamnés. Le psalmiste nous dit « Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Notons bien cependant que ce n'est pas Dieu qui envoie quelqu'un en enfer. En donnant son Fils, Dieu a tout fait pour empêcher que cela se produise. Certains cependant refusent de croire et ils en assumeront les conséquences. C'est une triste réalité qui nous heurte certainement et c'est normal. Personne ne peut se réjouir du châtiment éternel qui attend ceux qui seront condamnés. Mais c'est ainsi que Dieu a concilié son amour et sa justice. Il offre le salut à ceux qui croient en lui. Ceux qui refusent de croire seront condamnés. Jean, le disciple de Jésus, nous dit, dans l'évangile qu'il a écrit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Il n'est jamais trop tard pour revenir de cette pente glissante du rejet de Dieu. Le second aspect qui ressort de la réflexion du psalmiste est le suivant. Si le bien-être terrestre n'est pas ce que l'on doit rechercher, que doit-on rechercher alors? Que doit-on désirer sur cette terre? Il n'hésite pas à se considérer lui-même comme un sot ou un ignorant lorsqu'il repense à sa jalousie envers les méchants, à son ambition de richesse. Sa réflexion l'a mené à quelque chose de bien plus grand, de bien plus important. Au verset 25 et 26, nous avons lu « Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. » Que désirer d'autre sur cette terre? Son bien le plus précieux est de connaître Dieu, de vivre en s'appuyant sur lui, de compter sur lui au quotidien. Ce n'est pas une vague espérance dans un futur lointain. Non, la réalité de son quotidien, lorsque la fatigue ou la maladie l'accable, Dieu est son rocher. Ses tourments sont dissipés, son bonheur est là, il est avec Dieu. Asaph a ainsi trouvé deux réponses aux questions qu'il se posait. Sur le plan académique, le problème de l'injustice sera réglé lors du jugement divin. Sur le plan personnel, il est désormais conscient de vivre avec Dieu, au quotidien. C'est son bonheur qui dépasse de loin tous les maux qu'il peut endurer. Alors, pour en revenir rapidement à nous, est-ce toujours aussi clair qu'il y a les méchants d'un côté et les justes de l'autre? Sommes-nous toujours du côté des justes? Si on regarde Asaph, en fait, dans ces quelques versets, il n'est pas toujours très net. Il affirme avoir été jaloux, avoir convoité les biens de ceux qui l'entouraient. Il s'offusque de la richesse, de la prospérité, mais pas un mot sur la méchanceté. Et malgré cela, il affirme être resté pur. Il voit ce qui ne va pas chez les autres et il ne remarque pas ce qui pose problème chez lui. Alors n'agissons pas de même dans notre quotidien, en notant tout ce qui pose problème chez les personnes qui nous entourent, et en oubliant de regarder à nos propres échecs, à nos propres manquements. Asaph a résolu son problème en changeant lui-même, et par la grâce de Dieu, pas en changeant les autres. Alors pour conclure, j'aimerais vous rappeler deux choses. Le premier et le dernier verset de ce psaume. Tout d'abord, au premier verset que je vais vous relire, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. » Le psalmiste nous rappelle que Dieu est bon. Dieu est bon pour le peuple qu'il s'est choisi, pour ceux qui lui sont attachés. Paul, dans sa lettre à Tite, nous rappelle que désormais nous sommes ce peuple. En Tite 2, 14, Jésus-Christ s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous un peuple qui lui appartienne. Oui, nous sommes le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi. Nous pouvons être rassurés. Dieu est bon. Même lorsque nous ne le comprenons pas, comme dans la petite histoire que je vous ai lue en introduction, Dieu sait. Il n'a pas la même perspective que nous. Apprenons à réfléchir, à méditer en nous approchant de Dieu afin de renouveler nos pensées. Apprenons à adopter sa perspective des événements. Et le second point qui nous est adressé au dernier verset, « J'ai pris le Seigneur l'Éternel comme refuge et je raconterai toutes ses œuvres. » Allons partager, raconter ce qu'il a fait. C'est une bonne nouvelle que la réponse que Dieu donne au problème de l'injustice. Elle vaut le coup d'être partagée. Alors, je terminerai simplement en relisant avec vous les versets 25 et 26, si José, tu veux bien les afficher. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer, car je suis avec toi? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Alors, je vous invite à prendre maintenant quelques minutes pour méditer ce psaume sur ces versets. Sentez-vous libre, si vous le voulez aussi, de vous exprimer par la prière pendant ce temps. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive. Tu sais ce que nous traversons, nos difficultés, nos peines, nos souffrances. Mais Seigneur, dans ces temps-là, nous voulons apprendre toujours à nous tourner vers toi. Merci parce que tu es notre rocher, toujours là, toujours solide, notre bien le plus précieux, Seigneur. Apprends-nous à te désirer encore plus dans nos vies. Amen.